EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Aujourd'hui, nous allons parler de la rébellion. Ça donne envie hein, comme sujet, parler de la rébellion. Suis-je un rebelle sans le savoir? Ce titre est absolument merveilleux. Je pense que vous avez tous cliqué avec empressement sur cette émission en vous disant « Mais suis-je un rebelle sans le savoir ?» Et pourtant, bah, vous avez bien fait. Et je vous encourage aussi à partager cette émission parce que, quelquefois, la rébellion, on en a une image très extrême et on se dit bah, « Moi, c'est sûr, je ne suis pas un rebelle. » Où je ne fais rien qu'un rebelle puisse faire. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de voir qu'est-ce que la rébellion et est-ce que j'ai déjà posé des actes de rébellion? Est-ce que moi-même, j'ai déjà participé à de la rébellion? Et on va le voir que bah, bien souvent, quand on a essayé de se faire justice par soi-même, lorsque quelquefois, on a pu faire preuve d'immaturité ou même d'ignorance spirituelle, peut-être avons-nous et sommes-nous devenus par moments des rebelles. Et ce n'est pas une émission pour vous condamner, pour vous pointer du doigt, pour vous dire à quel point c'est mal ce que vous avez fait, mais c'est une émission dans laquelle le Saint-Esprit peut mettre en lumière des choses et nous faire comprendre aussi pourquoi on vit certaines choses dans nos vies, certains blocages, certaines choses qui ont l'air de revenir constamment comme des cycles et de se dire bah, peut-être finalement la source c'était la rébellion et aujourd'hui je décide de m'en séparer. Je ne savais pas que je faisais ça, je ne savais pas que c'était de la rébellion, mais aujourd'hui je prends la décision d'arrêter. Et nous sommes avec notre invité cette semaine, avec Jérémy Sourdrel.
Hello Jérémy.
Bonjour Nadine.
Tu ne dis pas bonjour.
Tu m'appelles Jérémy Sourdrel comme un inconnu.
Il est bon moi, Annabelle.
Oh. Mon cher et tendre mari, mon époux bien-aimé qui est avec nous cette semaine et aujourd'hui dans cette émission sur la rébellion parce que je le rappelle, tu as écrit toute une série de livres Marche dans l'amour, Walk in Love et donc si vous voulez savoir pourquoi il a écrit en anglais, bah, regardez l'émission d'hier et tu parles de la rébellion. Dans l'amour, quand tu parles de la marche dans l'amour, tu vas aussi du coup faire beaucoup de parallèles avec la rébellion, beaucoup de situations de rébellion qu'on trouve aussi dans la Bible. Alors, on se pose la question avec Nadine. Bah, pas... Comment savoir? Et Aurélie aussi, qui n'est pas là.
Surtout Aurélie.
Oui, on veut mêler Aurélie à toutes nos discussions. Quoi que tu aies fait, Aurélie, nous te pardonnons.
Je suis désolée d'avoir pris ta place, Aurélie. Vraiment, pardonne-moi.
Et elle s'est pas battue. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment savoir si on est rebelle?
C'est une bonne question, Annabelle, et j'aimerais te dire que tu n'es pas une femme rebelle.
Merci. Mon cœur est soulagé.
Alors, dans mon premier livre, je propose un petit jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu quand vous étiez petit, le jeu Qui est-ce ? On avait 24 personnages devant nous et on nous présentait un de ces personnages. Et en fait, l'autre avait le personnage en question et il fallait essayer de poser des questions pour savoir si, pour réussir à trouver qui était cette personne parmi les 24. Donc, on pouvait poser des questions, est-ce qu'il porte une moustache, est-ce qu'il a des lunettes. Annabelle est en train de sentir mon livre parce qu'elle aime beaucoup sentir les livres quand ils sont neufs.
Pourquoi tu le dis? Personne ne me voyait.
Pour faire participer, parce que les gens, ils ne voient que ce qu'on leur montre à la caméra. C'est dommage pour eux. Pour une fois, j'essaie de leur montrer un peu plus.
Merci, c'est gentil.
Et donc, voilà, porte-t-il une moustache, a-t-il un chapeau, etc. Et à la fin, on trouvait le personnage. Et voilà. Et donc, je propose, à partir de ce livre, de trouver quel est le rebelle parmi 24 personnes. Mais on a ajouté une 25e personne qui est vous, qui lisez le livre. Et en fait, à partir du chapitre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, j'ai réalisé vraiment que toutes les caractéristiques de l'amour, leur antipode, donc le contraire de cela, c'est vraiment toutes les caractéristiques de la rébellion. Donc, je les présente une à une, avec beaucoup d'exemples concrets, pratiques. Et à la fin, finalement, au fur et à mesure de lire le livre, on se dit « Ok, est-ce que je suis rebelle ?» Et finalement, à la fin, c'est « Est-ce que c'est moi, le personnage qui avait été caché ? Suis-je rebelle ?» Mais qu'est-ce que la rébellion ? Ce que c'est important quand on parle de savoir est-ce qu'on est rebelle, c'est parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi la définition. Alors ça, c'est une définition que moi, j'ai écrite. Ce n'est pas forcément Il y en aurait un peu d'autres, différentes, dites de façon différente, c'est pas l'unique.
C'est pas l'unique, définie.
Merci Annabelle, mais heureusement que tu es là. Hein.
Mais moi je suis l'unique par contre.
Ça, toi tu es unique ma chérie. Mais il ne faut pas me lancer là-dessus parce que...
Non, non, non.
D'accord.
Dans celui-là, je vraiment... Merci Nadine.
Merci Nadine.
De... dans le droit chemin. D'ailleurs, d'habitude, on met les invités au milieu.
Oui, mais là, Nadine...
Et ça va être trop de proximité pour vous deux. Vous
c'est ça, c'est en effet. Yveline fait la même chose quand on est dans Bonjour chez vous. Donc, qu'est-ce que la rébellion? Alors, la rébellion, c'est l'infraction commise par une personne contre l'autorité, consistant en une attaque... une résistance à ce qu'on lui demande de faire, une attitude d'opposition, de révolte ou d'indiscipline. Alors, c'est souvent deux ou trois choses qui sont mêlées, pas seulement une. Ce n'est pas parce que quelqu'un va résister un peu à l'autorité qu'elle est forcément rebelle. La Bible ajoute à cette définition le détachement à l'autorité, l'obstination et la désobéissance. Et en fait, bien sûr, la rébellion, c'est le contraire de la soumission. Et dans ce livre, je dis que forcément, dans nos vies, soit on est en contact avec un rebelle, donc autour de nous dans l'Église, soit on est la cible d'un rebelle, soit nous sommes rebelles, ou soit nous sommes en train de le devenir. Parce qu'en réalité, on ne naît pas rebelle, on le devient. Donc il arrive des situations dans nos vies où il se passe quelque chose. Parce que la rébellion, ce n'est pas seulement des actes, la rébellion, c'est vraiment dans le cœur. Mm-hmm. Ça veut dire que deux personnes peuvent, dans la même situation, réagir de la même façon, même si la situation se passe à intervalles, donc pas en même temps. Et la même situation, la même réaction qui est mauvaise, une mauvaise réaction, l'une peut être rebelle et l'autre ne peut ne pas l'être. Donc ce n'est pas seulement les actions, mais c'est vraiment d'abord ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et c'est la rébellion, elle naît dans le cœur. C'est quelque chose qui est là, qui se met à l'intérieur, il s'insère à l'intérieur du cœur et il peut être bien caché ou elle peut être bien cachée. Par contre, il va se manifester ici et là. Mm-hmm. Par exemple...
Attends, juste vas-y. Avant de continuer, dis-moi si tu comptais le dire peut-être plus tard, mais est-ce que tu voudrais peut-être déjà faire la petite différence entre le rebelle et le loup?
Ouais.
Parce que quelquefois, on va se disqualifier du statut de rebelle parce qu'on associe ça forcément au loup. Et du coup, c'est sûr, on se dit, c'est sûr, je ne suis pas un loup, donc je ne suis pas un rebelle. Mais comme tu l'expliques dans ton livre, un rebelle n'est pas forcément... Attends, un rebelle n'est pas forcément un loup.
C'est ça.
Mais un loup est un rebelle.
Voilà, un rebelle n'est pas forcément un loup, mais un loup est toujours un rebelle. Mm-hmm. Donc le rebelle, c'est un chrétien ou une chrétienne qui est là dans l'Église. Ce n'est pas forcément quelqu'un de méchant, foncièrement méchant. C'est souvent une personne qui a été blessée. Part du temps, et cette personne va réagir par de la rébellion. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas eu forcément de difficultés relationnelles, mais quand elle était plus jeune, ou il s'est passé des événements, en tout cas, qui ont créé quelque chose dans son cœur. Ça peut être aussi un divorce, ça peut être une relation avec des hommes, ou en tout cas. Et il se passe quelque chose, la personne donc, va commencer à... La rébellion va naître dans son cœur. Mais il y a une vraie différence, en effet, avec le loup, parce que le loup, lui, son but ultime, c'est de détruire. Mm-hmm. Il vient là, dans l'église, et il veut prendre des brebis. Donc, dans le cadre des églises locales, ça peut être quelqu'un qui arrive dans l'église, et dont le but est, dès le départ, de commencer une nouvelle église, et donc de prendre le maximum de personnes, parce qu'il se pense être meilleur que le pasteur en question, ou quelqu'un qui est dans l'église et qui devient, parce qu'on peut devenir aussi un loup, donc c'est le rebelle, d'abord, on devient rebelle, et au bout d'un moment, il y a une haine, une colère qui se met dans le cœur, et on devient maintenant un loup. Les pharisiens, par exemple, étaient des loups. Judas, lui, c'est un rebelle. Il ne voulait pas réellement que Jésus soit crucifié, mais il était pourtant prêt à le vendre. Par contre, quand Jésus est crucifié, c'est pas qu'il se repent, mais il regrette tellement ce qu'il a fait, il va se pendre. Et malheur à lui, Jésus dit à celui qui le livre. Mais à l'intérieur de lui, son cœur était... il n'aurait pas voulu que ça se passe. Mmh. Si on lui avait présenté ça, la vidéo, il aurait regretté. Par contre, les pharisiens n'auraient rien regretté. Ils ne regrettaient pas leur... Donc il y a vraiment une vraie différence entre le rebelle et le loup. Leurs actions, encore une fois, peuvent être les mêmes, mais c'est souvent le fruit va être aussi différent. et le motif du cœur. Le rebelle ne veut pas détruire le pasteur. Le rebelle, il est fâché peut-être contre le pasteur ou contre le leader ou contre quelqu'un, mais son but, ce n'est pas de détruire la personne. Il aimerait peut-être que la personne aille ailleurs, s'en aille, qu'il prenne la place de la personne, mais il veut pas, il est pas foncièrement mauvais. C'est quelqu'un qui est juste souvent blessé.
Blessé, ouais. Et j'aime bien aimer ta définition, parce que tu as dit, avant même de donner ta définition, que ce n'est pas parce qu'on remet quelque chose en question, qu'on questionne, qu'on est automatiquement rebelle, c'est que ça s'accompagne avec d'autres choses. C'est la perception qu'on va avoir de l'autorité, le rejet qu'on va avoir de cette autorité, la pensée qu'on est meilleur ou la pensée qu'une autre personne devrait prendre la place. C'est en fait dans ces actions-là qu'on voit. Et j'aime bien le titre de l'émission parce que ça dit « Est-ce que je suis rebelle sans le savoir ?» Et ce serait dommage pour des personnes de vivre certaines choses dans leur vie, ne sachant pas la source, ne sachant pas la cause, mais... peut-être parce que, justement, on marche dans de la rébellion ou on a été entraîné dans de la rébellion. Et dans la plupart des temps, dans les églises locales, c'est ça qui se passe. C'est qu'il y a une personne qui se lève avec ce sentiment-là de revendication ou peu importe. Et cette personne va entraîner les autres. Comme tu as donné un peu l'exemple hier par rapport à « j'ai l'offense et je transmets mon offense », mais je suis rebelle et j'infecte, je transmets cet esprit, cette pensée rebelle aux autres. Et du coup, je leur fais voir des choses dans une certaine perspective. Parce que tu as dit, c'est dans notre corps, en fait. Le même événement peut se passer, mais on peut avoir deux réactions différentes. Et la réaction du rebelle, c'est parce qu'en fait, il y a une racine, en fait, dans son cœur. Et du coup, je fais voir des choses d'une certaine manière. Et là, j'arrive à lever comme ça un mouvement de personnes.
Et du coup, quels sont les symptômes de la rébellion ou d'une personne rebelle?
Les symptômes, c'est-à-dire, Annabelle
les manifestations,
les points...
En tout cas, aussi pour rebondir, c'est que, comme tu le dis, on peut l'être sans le savoir. Dans le sens, oui, il y a des symptômes, mais c'est un peu comme le rejet. Il y a des personnes qui ont un esprit de rejet, elles ne le savent pas. Mais il suffit qu'ils ne soient pas invités à un repas et que d'autres soient invités, tout de suite, ça vient appuyer sur là où ça fait mal. Et la rébellion, c'est pareil. On peut être un rebelle sans le savoir. Et il suffit d'une attitude et tout de suite, ça alerte, en fait. Donc, les symptômes, donc c'est...
L'impatience, la dureté, la méchanceté, l'envie, des choses comme ça.
Ah, les symptômes. Il y en a plusieurs, donc c'est vraiment tout ce qui est le contraire de l'amour, en réalité. Et une chose qui peut nous aider à reconnaître ces symptômes, déjà, c'est juste le principe en soi de l'autorité. Ouais. Des questions qu'on peut se poser, est-ce que, pardon, mes parents, parce que cette rébellion, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'Église, mais ça peut être dans le cadre du couple, par rapport au gouvernement. Vous avez quelqu'un, et si vous êtes quelqu'un, à chaque fois vous regardez les journaux télévisés, et le président de la République ou les ministres parlent, et tout de suite vous mettez
à exploser,
à dire toutes sortes de mal d'eux, il y a certainement un problème avec la rébellion. Si à chaque fois vous voyez un policier, vous ne pouvez pas avoir de mauvaises... Vous n'avez que des mauvaises pensées. Il y a un problème avec la rébellion. Si vous êtes un élève de classe et vous n'aimez pas les professeurs, il y a un problème de rébellion. Ou un enfant par rapport aux parents. La rébellion, elle est présente partout, en fait. Partout, partout. Et donc, si vous posez des questions comme « Est-ce que mes parents sont une autorité dans ma vie ?» Et que ça fait... Ou alors votre mari, votre pasteur ou le gouvernement, et que ça crée déjà quelque chose en vous, non, mais autorité, mais n'importe quoi, il y a certainement un problème par rapport à ça. Et posez-vous des questions. Est-ce que vous avez déjà attaqué une autorité? Est-ce que vous avez résisté à une autorité? Vous vous êtes opposé à une autorité? Est-ce que vous avez été indiscipliné par rapport aux ordres qui vous ont été donnés par une autorité? Alors ici, on va parler d'ordre. Bon, c'est important de dire aussi, Romains 13 nous parle de l'autorité. L'autorité, elle est là pour notre bien. Je ne parle pas ici des autorités sataniques ou charnelles, humaines, qui sont là pour faire du mal. L'autorité a été créée, le système de l'autorité a été créé par Dieu pour le bien. Maintenant, une autorité ne fera pas toujours le bien, mais en soi, l'autorité est là pour de bonnes choses. Est-ce qu'on s'est déjà révolté contre une autorité ou est-ce qu'on s'est détaché d'une autorité? Est-ce que le mot « soumission », ça fait mal à votre oreille ou à votre cœur? Ou alors ça vous ramène à des blessures, à des mauvais souvenirs que vous avez eus? Donc déjà, se poser ces questions-là, on peut se dire « ok ». On a une faiblesse quelque part par rapport à l'autorité. Parce que quand on me parle d'autorité, je ne peux pas voir mon pasteur comme une autorité. C'est qu'il y a certainement une gêne. Vous savez, des fois, on peut sentir une gêne quelque part parce qu'on s'est fait mal, ou il y a un bleu. On peut ressentir une gêne quand on nous parle de ces choses-là. Parce que, oui, certainement qu'il y a une racine de rébellion. Et comme tu disais, c'est vraiment une racine. Donc c'est là, mais au bout d'un moment, ça pousse et ça peut devenir un grand arbre et ça peut vraiment pourrir toute notre vie.
Mm-hmm. Et lorsqu'on a cette racine de rébellion, une autre façon de détecter aussi, c'est quelle est notre réaction. Je pense par exemple au cas de Myriam. Myriam qui va voir son frère Moïse avancer avec le mandat que Dieu lui a donné et va questionner l'épouse que Moïse a prise, va questionner ceci, cela, et va se retourner vers Aaron pour en parler, etc. Et la Bible va nous donner en fait c'est quoi la pensée de Dieu, c'est quoi la réaction que Dieu a eue par rapport à cette situation-là. Donc nous, on parle dans l'église locale, même ça peut être aussi dans le cadre de la famille, ça veut dire que ma réaction, par exemple, devant, on va parler même demain par rapport au leader, mais vraiment ma réaction, est-ce que c'est une réaction pour plus encore dénigrer la personne, pour rattacher d'autres personnes à ma pensée, tu vois? Et quand elle s'est retournée vers Aaron, c'était pas pour qu'Aaron lui dise non, t'as pas, non, en fait, non, Moïse est le choisi de Dieu, c'est Phara, tout va bien. C'était pour quelqu'un qui va confirmer, en fait, sa position à elle. Alors nous, en tant qu'enfant de Dieu, comme ça on parle de la rébellion, si j'ai un constat, est-ce que ce constat, je cherche à ce qu'il soit défait, je cherche à recevoir la pensée de Dieu par rapport à ce constat, ou je cherche d'autres personnes qui vont me renforcer ma position par rapport à cela et dénigrer davantage le leader, la personne devant laquelle je me trouve, que ce soit le président, chercher d'autres personnes qui pensent la même chose pour qu'on dise oui, c'est un mauvais gouvernement, que ce soit le prof d'école ou que ce soit mon pasteur, etc. Donc c'est dans des petites choses comme ça aussi qu'on voit notre cœur, il se penche naturellement, vers quelle façon de penser, quelle réaction en fait. Mm-hmm. C'est des choses comme ça aussi qui peuvent nous éclairer par rapport à ce point.
Mm-hmm. Ouais. Et dans le livre, je partage 15 symptômes.
Tu peux changer le mot. Je sens que symptôme, c'est pas...
Ouais,
ça te plaît pas.
Ça dérange un peu, mais c'est pas grave.
Bah vas-y, prends
le mot. 15 caractéristiques.
Voilà, parfait.
De la rébellion. Donc, on n'aura pas le temps de toutes les voir, mais peut-être on peut en voir deux, trois déjà. Mm-hmm. Une des choses, tu as parlé d'appel et de position, tout ça. L'amour est patient, mais la rébellion va nous rendre impatients. Souvent, le rebelle, c'est quelqu'un qui est, il a quand même une attention particulière par rapport à son appel. Il est là dans l'église et il sait ou elle sait que elle sait prier. Peut-être elle le dit pas comme ça, mais moi, je suis une femme de prière, je sais prier. Et voilà, et quand j'écoute les autres prier, je me dis que souvent, il pense beaucoup de choses, hein, le rebelle. La personne a mal prié. Quand je regarde mon pasteur, je vois que moi, je pourrais faire mieux. Je suis souvent dans un esprit critique par rapport à ce que les autres font. Et quelque part au fond de moi, je me dis que je ferais mieux. Et peut-être même qu'en réalité, cette chantre-là, non seulement je ferais mieux, mais c'est parce qu'en fait, elle a pris ma place. Ce pasteur, il n'est pas à sa place parce que c'est moi qui devrais être là. Mmh. Et donc, la personne, le rebelle est souvent préoccupé par son appel. Et impatient par rapport à son appel. Donc pour lui, au bout d'un moment, il va même se dire que c'est les autres qui m'empêchent de rentrer dans mon appel. Comme tu disais avec Aaron, Myriam, mais Dieu peut aussi parler par nous. Et donc ils aimeraient quelque part être à la place du leader. Et on sait par contre que quand ils y sont, les choses ne se passent pas toujours comme
peut-être
l'aurait
imaginé. Parce qu'encore une fois, je crois que souvent, quand on est au cœur de ces situations-là, c'est difficile de se reconnaître parce que, comme on l'a dit, bien souvent, la rébellion naît dans la blessure. Donc, il y a pu avoir, et on va en parler demain, des erreurs peut-être de leadership, mais on est tellement aveuglé par cette erreur, par cette source d'injustice, cette mauvaise communication, qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de nourrir qu'on est en train de nourrir de la rébellion et qu'on est en train de glisser du mauvais côté. Mmh. Et du coup, on est là en train de regarder tout le monde, tous ceux qui servent, particulièrement là où nous, on se sent appelés à servir, et de s'écouter. Prenez le temps de vous écouter. Depuis quand n'avez-vous pas béni ces gens? Depuis quand n'avez-vous pas dit du bien de ces gens? Et est-ce que votre discours, c'est plutôt, de toute manière, eux, ils ont été placés là parce qu'ils sont amis, parce qu'ils ont joué des coudes. De toute façon, il y a du favoritisme. Moi, on me demande juste de faire... faire du ménage, de m'occuper des enfants, alors qu'ils savent très bien, ils savent très bien. Et écoutez-vous parler avec humilité et avec aussi courage pour savoir ce que le Saint-Esprit veut vous révéler, parce que je sais que c'est pas facile dans ces moments-là de pouvoir recevoir ce genre de correction, parce que le sentiment de blessure, le sentiment de trahison, de mise de rejet est fort, et du coup on peut être tellement concentré sur ce côté de victime qu'on ne se rend pas compte que nous-mêmes on devient un peu le méchant de l'histoire. Donc encore une fois, c'est pas pour vous pointer du doigt, pour vous condamner, mais c'est pour vous amener à vivre cette délivrance, parce qu'en fait, en rentrant dans ce chemin-là de la rébellion, du jugement, où on s'élève au-dessus des autres, où on ferait mieux que tout le monde, ben c'est pas le chemin que Dieu nous appelle à choisir, et c'est pas le chemin on ne trouve même pas ce mot-là sur ce chemin-là. Donc, c'est important que vous preniez le temps de pouvoir vous examiner et d'être sincère avec vous-même.
Comme tu me le proposes si gentiment, ma chérie, je vais lire un extrait
pour
ce premier symptôme, sur le manque de patience. Parce qu'un don sans amour, aussi grand soit-il, est égal à zéro aux yeux de Dieu. Rappelons-nous que le seul fondement pour aborder le sujet d'une relation difficile est la parole de Dieu, et non un jugement ou des critères personnels. Comme on l'a vu dans 1 Corinthiens 13, nous pourrions avoir la connaissance de tous les mystères, les dons de prophétie, de révélation, la manifestation de tous les dons spirituels, une foi extraordinaire, et même nous consacrer à l'évangélisation et donner notre corps pour sauver des gens. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes passés à côté de l'essentiel. Dieu ne pourra pas nous approuver, même si nous évangélisons alors que les autres ne le font pas. Lorsque l'évangélisation est un moyen de s'enorgueillir et de s'élever au-dessus des autres, Christ n'est pas moins annoncé, mais nous nous trompons nous-mêmes. Et donc, ce qui est triste, c'est que bien qu'il soit impatient d'entrer dans son appel et qu'il veuille avancer vite, le rebelle tourne en rond. Il n'avance pas et quelque part, il le réalise bien. Il persiste dans les mêmes façons de penser, même s'il ne change pas, il n'avancera jamais. Il doit comprendre sa saison, celle de l'attente patiente. Ça veut dire, avant d'entrer dans l'appel, on va devoir patienter sans murmurer. Le temps n'est pas venu pour lui d'entrer pleinement dans ce qu'il pense être son appel, mais son appel actuel est d'attendre patiemment. Le personnage mystère, donc le rebelle, s'est peut-être retrouvé dans une église, il a aspiré à avoir une position ou un titre particulier. Il aurait bien aimé, par exemple, s'occuper de la prière ou de la prédication du mardi soir. Dans cette église, il a bien observé comment les choses se passaient et il a été à l'affût d'une élévation qu'on ne lui a pas donnée. Il a peut-être vu une personne prendre la place qu'il désirait, un nouveau converti, par exemple, ou un nouveau chrétien dans l'église. Cette situation l'a frustré et il s'est senti incompris de la part des responsables qu'il a alors commencé à critiquer. Ce n'est peut-être pas sa première église, et si cela continue ainsi, ce ne sera pas non plus sa dernière. Ça, c'est juste un petit extrait par rapport au premier symptôme. Deuxième symptôme qu'on peut voir rapidement, l'amour est plein de bonté et la rébellion rend dur et méchant. En réalité, le rebelle, au bout d'un moment, on va voir qu'il n'a pas d'intérêt véritable pour les âmes. On le voit très très bien chez les pharisiens qui sont des loups, non seulement d'être rebelles. Je me souviens en particulier d'une église dans laquelle nous étions et il y avait plusieurs nouveaux convertis qui étaient là. Et dans une assemblée générale, je me souviens entre autres qu'il y avait une femme qui avait accepté le Seigneur il n'y a pas longtemps. Des personnes se sont levées, prêtes quasiment à frapper le pasteur. Ils étaient en colère et je me suis dit, moi j'étais jeune. Et je me disais, mais comment peuvent-ils agir de la sorte alors qu'il y a une brebis qui est là, qui est fragile? Et je me suis dit, mais en fait, ils n'ont pas d'intérêt pour cette âme-là. Donc ça, c'est le rebelle, prêt à tout pour critiquer, calomnier ou construire sa propre façon de voir ou construire son église sans faire vraiment attention à est-ce que ça pourrait faire du mal à cette personne. On l'a vu avant-hier, Jésus dit que il est inévitable qu'il y ait des occasions de chute et de dispute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Donc si on veut à tout prix avoir raison, mais que ça peut faire du mal à des gens, on devrait plutôt se retirer dans la prière et ne pas rentrer dans ce côté de dur et méchant. Et bon, c'est surtout par rapport aux autorités qu'il y a cette dureté, cette méchanceté. C'est vraiment... au bout d'un moment, une personne qui va mépriser les pères ou qui va être plein de colère, de critiques et de calomnies envers des responsables spirituels et ceux qui vont critiquer les pasteurs au moindre écart. En tout cas, la rébellion, c'est une racine, on l'a dit. Et comment elle va s'exprimer? C'est que je vais être dur dur, intransigeant envers les fautes des autres, alors que j'en ai des fois de beaucoup plus grandes. Donc dès que quelqu'un va faire une erreur, et particulièrement un responsable spirituel, je vais en parler. Je vais en parler autour de moi, je vais aller voir peut-être ma femme, mon mari, direct on est dans la voiture et « Ah, t'as vu ce qu'il a fait ? Ah, t'as vu ce qu'il a fait ? Ah, pourquoi aujourd'hui il portait cet habit-là ? Pourquoi il a osé dire ça ? Ah, tu as vu ce qu'il a fait ? Ah, regarde. » En fait, c'est quelqu'un qui est constamment en train de critiquer. Mais c'est une dureté, c'est vraiment une dureté de cœur, hein, finalement. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas du tout de grâce. Et un troisième symptôme, c'est l'envie. C'est un peu évolutif. Mais l'envie, le fait que je ne rentre pas dans mon appel, ou je ne rentre pas dans ce que je crois être mon appel, ou que le pasteur ne m'a pas donné cette place, ou ce responsable spirituel, cette position, bah, au bout d'un moment, oui, comme Myriam et Aaron, il y a une jalousie qui s'installe dans le cœur. Et cette jalousie, elle va s'exprimer par des paroles, mais quand, dans l'histoire d'Aaron et de Myriam d'ailleurs, Dieu va se lever dans cette situation, il est écrit que Dieu a entendu. Il dit « j'ai entendu ». Et il faut faire vraiment attention à ce qui sort de notre bouche, mais particulièrement de notre cœur, par rapport à ce qu'on peut dire sur des leaders. Donc, mais c'est vraiment l'envie et la jalousie, c'est vraiment un des symptômes forts du rebelle. C'est que je veux être dans cette position, alors je vais convoiter des positions, mais il faut se rappeler que c'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. Même si la personne, le leader, ne me reconnaît pas dans mon appel, et ça arrive dans des églises, parfois les leaders ont peur. Les pasteurs ont peur parfois d'élever, surtout des gens qui ont des appels qui sont forts, et surtout s'ils n'ont pas le caractère. Mais parfois, c'est le leader aussi qui fait une erreur, vous êtes appelé à faire ça, mais le leader ne le voit pas, peut-être par peur ou par d'autres situations. Mais ce n'est pas grave, servez le Seigneur autant que vous le pouvez, et Dieu saura vous placer dans votre appel. Quatrième chose, peut-être pour terminer, c'est que l'amour ne se vante pas, mais la rébellion cherche à le faire. Donc d'une manière ou d'une autre, si j'ai balayé dans l'église, il faudra que je le dise. Si j'ai évangélisé, il faudra que les gens le sachent. Tout ce que j'ai fait, il faudra que les gens d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je suis tellement content qu'on me donne le micro pour témoigner. Parce que là, je peux dire combien je suis un chrétien ou une chrétienne merveilleuse, combien j'ai fait telle et telle chose. Et même parfois dans la prière, alors que j'élève ma voix dans l'église, ce n'est pas une louange à Dieu, mais c'est une louange à ce que j'ai bien fait. Donc il va chercher, le rebelle, la reconnaissance et l'honneur. Donc, je cherche la reconnaissance de la part des autres. Je veux que, c'est un peu ce qui était exprimé dans les Actes des Apôtres, voix d'un Dieu et non d'un homme. J'aimerais être vu, j'aimerais qu'on voit ce que je fais. Parce que ce que je fais, je trouve que c'est important, je trouve que je le fais bien. Et si je me suis occupé d'une réunion de prière et que personne ne m'a rien dit, à l'intérieur, ça va vraiment pas. Donc voilà, ça c'est 4 parmi les 15. Et vraiment en peu de mots, mais il y a beaucoup de symptômes au fait d'être rebelle.
Mmh. Et on peut retrouver tous ces symptômes ou ces caractéristiques dans ton livre, ouais, le premier tome. Et je rappelle
Wokinov.fr.
C'est ça, qu'il y en a 2 autres. Donc il y en a 3.
Si,
et c'est un coffret, une trilogie, et qu'on peut afficher d'ailleurs. Comme ça, vous voyez tout le coffret, toute la trilogie qui est donc disponible sur walkinlove.fr. Et vous pourrez avoir le temps de pouvoir méditer sur ces 15 caractéristiques ou ces 15 symptômes. Et pour terminer, alors qu'on parlait de la paix, de la dureté, de la méchanceté, c'est ça. Je veux faire cette parenthèse aussi, et pour que vous soyez conscients de ce qui se passe autour de vous, notamment sur Internet, que personne n'est appelé à avoir un ministère de dénonciation. Et lorsque vous voyez des chaînes YouTube dont le contenu est seulement de prendre les messages de tout le monde, particulièrement des gens, des ministères plus connus, que ce soit dans la francophonie ou dans les ministères anglophones, peu importe, en fait, sachez qu'il n'y a pas ce genre de ministère, que Dieu nous appelle à être des ministères de l'édification et pas des ministères de destruction. Et nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous convainc, qui nous conduit, qui nous enseigne toutes choses, qui nous dirige dans la vérité. Et nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir nous diriger. Et même quand Paul a exposé des gens, il n'en a pas fait une lettre entière. Ça a été une phrase pour mettre en garde. Alors maintenant, quand vous voyez des chaînes qui sont remplies de ce genre de contenu, n'allez même pas sur ces chaînes, ne regardez pas, ne perdez pas une minute de votre temps, particulièrement si vous êtes déjà un petit peu fragile à ce niveau-là, parce que ça va venir nourrir de la rébellion, ça va venir semer des graines de rébellion, vous faire penser à des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Donc je vous encourage à faire attention à ce que vous entendez, à ce que vous lisez, à ce que vous regardez, pour pouvoir aussi garder votre cœur. Et demain, nous allons parler des erreurs qu'il peut y avoir dans les églises, les erreurs des leaders et comment y faire face. Alors à demain dans Parole de Femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femme sur emcitv.com.